Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un film qui retrace l'histoire de la mémoire de Vichy depuis l'immédiate après-guerre jusqu'à nos jours, où cette mémoire continue d'ailleurs de nourrir, voire d'empoisonner le débat public. Bonjour Michael Prazan.
Bonjour.
Vous avez déjà réalisé de nombreux films documentaires. Le plus connu, votre masterpiece, on pourrait dire, c'est Einsatzgruppen, donc sur les Einsatzgruppen. Mais il y a aussi le procès Eichmann, les faussaires de l'histoire sur le négationnisme, plus récemment Das Reich, sur la fameuse division SS. Et vous avez réalisé, on vous a d'ailleurs invité plusieurs fois dans cette émission, et cette fois, vous venez pour nous parler de Vichy, la mémoire empoisonnée, qui est produit par Tal Weg, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un film ambitieux qui dure 1h30 et qui explore non pas l'histoire du régime de Vichy, mais l'histoire de notre rapport à ce régime, à cette période de notre histoire. Comment est-on passé, pour faire vite, du refoulement à la reconnaissance de la responsabilité de la France? C'est ce chemin que vous éclairez à l'aide de grands témoins et d'historiens, et je vous propose que l'on suive nous aussi ce chemin. Mais avant, j'aurais une question. Quel a été le point de départ de ce film? Est-ce l'affaire Zemmour?
C'est pas l'affaire Zemmour, même si elle est contemporaine de la décision de faire ce film. Donc ça a joué, c'est sûr. Et ça a joué comme une espèce de retour de bâton, d'un serpent de mer qui n'en finit pas de couler et de ressurgir. Et donc c'était effectivement pas anodin. Mais en fait, c'est venu par la proposition de mon producteur, Vincent Gazaigne, et donc de Tal Weg Productions que vous avez cité, qui est une boîte que j'ai créée en fait avec lui, que j'ai quittée depuis, mais on est resté proches et amis, et il est venu me voir en me disant, voilà, il faudrait faire un film sur le comité Veldiv, qui était animé par des gens qu'on avait en commun, qui est la famille Sénic. Moi, je suis très proche des Sénic, et en fait, je connais bien aussi Juliette, qui est la fille d'André, qui est réalisatrice. Et effectivement, ce groupe-là avait s'était constitué comme une espèce de lobby d'intellectuels pour faire pression à l'époque sur le pouvoir pour un discours sur une vraie reconnaissance française des crimes commis par Vichy, ce qui a donné lieu, c'était pas évidemment la seule source de pression qui a pu produire ce discours, mais qui a donné lieu au discours fameux de Jacques Chirac au Veldiv sur la question.
Comité qui n'est pas forcément très connu d'ailleurs.
Comité qui n'est pas du tout connu, et c'est vrai qu'il y avait
Les activistes mémoriels, on pourrait dire, on pense toujours au Klarsfeld, mais...
Absolument. Alors évidemment, Klarsfeld est aussi très présent dans mon film. Il est interviewé, et puis c'est le fil rouge, ou l'un des fils rouges de cette histoire mémorielle, c'est évident. Mais en tout cas, quand Vincent Gazaigne, donc mon producteur, me propose ce projet-là, je lui dis non. Je lui dis, il faut élargir, il faut faire un film dans lequel le comité Veldiv s'inscrira, mais comme la fin d'une histoire, et la fin d'une histoire qui est une histoire mémorielle, sur effectivement la mémoire de Vichy. Comment est-ce qu'on passe après la guerre, d'une théorie qui quand même va en gros être statufiée pendant quelques décennies, qui est la fameuse théorie du bouclier, c'est-à-dire Vichy était le bouclier et puis De Gaulle c'était le glaive, et tout ça agissait de concert pour protéger ce qu'on pouvait protéger de la France et des Français, jusqu'à la déclaration de Jacques Chirac, c'est-à-dire la France est coupable. Voilà, donc il y a eu quand même un parcours très intéressant au long cours pour partir de ce point A et arriver à ce point Z qui est diamétralement la thèse opposée. Et pour en arriver là, eh bien, il y avait un certain nombre de marqueurs, un certain nombre d'affaires, un certain nombre de personnages aussi qui ont fait évoluer nos mentalités sur ce sujet et les mentalités de la France au sens le plus large.
Alors, j'ai parlé de l'affaire Zemmour. Là. Est-ce que vous pouvez justement rappeler sur quelle théorie, justement, quelle thèse le livre Le suicide français s'appuie, quelle vieille idée il a remis au goût du jour?
Elle s'appuie sur un livre d'un monsieur qui s'appelait Robert Aron, qui était juif et qui devait sa vie et en même temps son combat dans la résistance à la protection d'un homme qui s'appelait Jean Jardel, qui était dans le cabinet de Laval, Donc c'était vraiment un collaborateur de premier plan, et c'est vrai que Robert Aron lui devait la vie. Et donc il a écrit après la guerre la première histoire de Vichy, et qui sera longtemps la seule histoire de Vichy, et dont la thèse, qui est vraiment la thèse du bouclier que je viens d'énoncer quelques minutes auparavant, et qui s'appuie en fait sur la défense de Maître Isorni, donc l'avocat de Pétain, au procès de 45 devant
plus loin que la thèse du bouclier,
la haute
quand
cour
même.
De oui, mais c'est, en tout cas, elle est façonnée par, et on comprend bien, c'est plus que dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la seule source de Robert Aron pour écrire son livre, ce sont les procès de la Haute Cour de justice. Il n'a pas remonté jusqu'aux sources historiques, jusqu'aux sources, jusqu'à de la documentation, avec laquelle quelqu'un comme Robert Paxton va ensuite écrire pour la démonter totalement, cette histoire de Vichy de Robert Aron. Et Paxton, lui, va aller dans la documentation, notamment et essentiellement allemande. Et alors évidemment, c'est une toute autre vision du régime de Vichy qui apparaît lorsqu'on s'intéresse ou lorsqu'on prend comme source la documentation allemande, et non pas uniquement les investigations et les plaidoiries des avocats dans les procès d'épuration de la Haute Cour de justice, où là, on est déjà dans l'après-guerre, où là, on est déjà dans l'idée de sauver les meubles, c'est-à-dire de sauver une administration française, parce qu'on a besoin de remettre ses élites en marche, et on a besoin de remettre la France en marche. Donc il y a aussi une opportunité, il y a aussi une contingence de l'époque qui oriente l'écriture du livre de Robert Aron, qui est la réconciliation nationale. C'était ça l'objectif du livre. C'était vraiment rabibocher les Français entre eux qui s'étaient divisés pendant la période de l'occupation. Donc à la fois, il y a un objectif opportun du moment où s'écrit ce livre, c'est-à-dire après la guerre, et puis en même temps, il y a une thèse qui est reprise in extenso par la frange la plus radicale et la plus d'extrême droite, qui est celle, au fond, de la défense de Pétain ou de Laval au procès de la Haute Cour de justice. Donc voilà, en gros, d'où on part.
C'est-à-dire, du coup, que Pétain a sauver les juifs, enfin à protéger les juifs français, à livrer les juifs étrangers pour pouvoir mieux sauver les juifs français.
Absolument, voilà, la thèse c'est ça, alors que évidemment les juifs français, c'est un contresens absolu, ont été en fait même plus frappés que les juifs étrangers. Pour une raison très simple d'ailleurs, au moins deux raisons. La première, c'est que les juifs français avaient plus de biens que les juifs étrangers, et donc ils sont les premières cibles des spoliations. Et puis les juifs étrangers, vous savez, ils avaient des enfants. Et ces enfants, naturellement, ils étaient destinés à devenir français. Donc on peut passer par pertes et profits la disparition et l'assassinat de milliers d'enfants, n'empêche que c'était des enfants français.
D'ailleurs, Robert Paxton dit dans votre film que cette hypothèse que Vichy a sauvé les juifs français fait rire. Il est, voilà, c'est un
presque.
Des grands témoins de...
ajoute-t'il.
Oui, presque, ouais, c'est ça. C'est
non,
pas
c'est
si grave.
Je veux dire, effectivement... Non, mais en plus, ces thèses-là ont été tellement démolies par Paxton, mais pas seulement, qui revenir
voilà,
aujourd'hui...
On peut s'étonner qu'elles aient voilà, refait surface.
C'est presque et surréaliste.
Qu'elles aient pu être... qu'on ait pu de nouveau leur donner enfin, une forme de crédit, enfin, qu'un intellectuel ait pu leur donner une forme
on
de crédit.
On mise et on table toujours sur la même chose, l'oubli. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression, à chaque décennie ou à chaque nouvelle génération, de recommencer l'histoire à zéro. Et il faut tout redémontrer.
Je me posais une question à la lumière de ce film, de cette enquête dans la mémoire, de l'histoire de la mémoire. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu une véritable politique, de, on pourrait dire, de dévichisation, c'est pas très beau, mais en France? Ou bien que, comme en Allemagne, en fait, ce processus, hein, vous avez commencé à y répondre, a été non seulement superficiel, mais en plus, finalement, assez court, enfin, très vite arrêté pour les nécessités de la continuité de l'État, etc.
Les contingences ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, Vichy n'est pas non plus le Troisième Reich, donc il y a toutes ces distinctions qu'il faut, malgré tout, faire. Mais oui, tout ça prend beaucoup de temps. On est toujours finalement pris en étau entre les contingences de notre époque, ce qu'on peut dire ou ne pas dire à un certain moment donné de l'histoire, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le dire. Et ça, au fond, c'est la problématique avec laquelle doit composer quelqu'un comme De Gaulle, hein, qui est parfaitement conscient quand même de la criminalité de Vichy, et qui en même temps a lui aussi besoin de remettre la France sur pied, a lui aussi besoin de réconcilier les Français, d'unir la nation. Donc il y a toutes ces questions qui se posent dans l'immédiate après-guerre, comme la question de la guerre froide va se poser pour les Américains et qui va justifier ou expliquer le fait que beaucoup de criminels contre l'humanité qui ont parfois 100 000 morts juifs sur la conscience à Nuremberg, et là je pense par exemple au procès des Einsatzgruppen, sur 26 types jugés, il va y avoir une dizaine de condamnations à mort, et puis elles seront toutes commuées en peine de prison à perpétuité, et puis au début des années 50, tous sont remis en liberté. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a dans ces règlements judiciaires d'après-guerre des progrès insensés pour l'histoire et pour la justice, et puis en même temps des reculs extrêmement préjudiciables et incompréhensibles avec nos yeux d'aujourd'hui.
Je vous pose la question parce que vous montrez bien qu'il y a une épuration sauvage qui se fait, et également une épuration administrative, mais on peut se demander si la force de l'extrême droite dans notre pays aujourd'hui, d'un côté, de l'antisémitisme de l'autre, ne peut pas être liée au fait que ce travail de mémoire, finalement, est resté incomplet ou peut-être superficiel à cause, justement, de ce mythe, enfin, cette thèse du bouclier qui finalement, même si elle a été démontée par des historiens, reste quand même assez prégnante, hein, l'idée d'une France résistante, qui a été, comme vous le dites dans le film, du côté où Robert Badinter le dit, je crois, finalement, l'opération magique de De Gaulle, c'est de dire bah, les Français ont été vainqueurs. Enfin, c'est de transformer les vaincus
et les collaborateurs en vainqueurs. Dans le camp des vainqueurs, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Français qui ont été vainqueurs, parce qu'il y a quand même des Français qui ont été courageux, qui se sont battus, qui, du premier au dernier jour, ont rejoint la résistance. Il y a des héros encore aujourd'hui inconnus, et je rends hommage à certains d'entre eux ou d'entre elles dans un film précédent sur la Dasreich. On a oublié leur nom, je pense à Violette Sabot notamment, par exemple, qui s'est sacrifiée, qui n'était même pas française, au nom de la France dans la résistance, face à des brutes insensées. Donc il y a aussi ces gens à qui on doit rendre hommage. Ils étaient effectivement très peu nombreux, mais ils sont, à n'en point douter, l'honneur de la France. Cela étant dit, oui, c'est une minorité, c'est quelque chose qui a été atrophié par, encore une fois, une perception et une certaine vision de l'époque à laquelle où cette vision s'exprime, et pour des raisons qui ont déjà été énoncées, et De Gaulle en fait partie. Alors, on est d'une certaine manière, effectivement, face à une forme d'entourloupe de l'histoire, mais c'est aussi une réalité minoritaire, mais c'est une réalité, et il était normal que quelqu'un issu des rangs de la résistance, et qui en premier lieu était d'ailleurs son chef, ait été la parole qui a incarné ça, c'est-à-dire celle de De Gaulle. Et par rapport à cette parole-là, eh bien, il y a des gens qui ont pensé pouvoir sauver les meubles. Souvenez-vous ce que disait Xavier Vallat à son procès d'épuration, quand il rappelait qu'avant la guerre, on avait des quartiers d'antisémitisme, comme d'autres, des quartiers de noblesse. Alors évidemment, après la guerre, il est très difficile de sauver l'antisémitisme, mais on peut quand même sauver quelque chose qui a été de l'ordre de ce qu'était Vichy, c'est-à-dire la prise de pouvoir de l'extrême droite française au plus haut de l'État. Et donc, il y a ça qu'on a envie de sauver, il y a ça que certaines personnes, certaines forces vives de la nation, encore agissantes, encore présentes après la guerre, essayent coûte que coûte de sauver, c'est-à-dire une certaine forme d'honneur de Vichy, d'honneur indéfendable, introuvable, mais enfin, ces gens-là y croient, et ils vont se constituer comme une forme de lobby mémoriel d'une certaine manière. Alors il y a certaines figures.
Tixier-Vignancourt
en fait partie. Izorni, son rôle était évidemment extrêmement important dans la construction rétrospective de cette mémoire heureuse de Vichy, si on peut dire. Et il y en a beaucoup d'autres, même des gens comme Amouroux, enfin des historiens. Il y a tout quand même. Ce que j'ai voulu donner aussi à voir dans le film et à comprendre, c'est que ces gens sont encore là après la guerre. On les invite dans les émissions de radio, dans les émissions de télévision, ils ont pignon sur rue et ils vont tout faire pendant un certain nombre de décennies pour faire vivre cette idée-là, pour faire vivre, au fond, Vichy était un moindre mal, que Vichy a fait ce qu'il a pu pour sauver les Français, juifs compris.
Et Mitterrand, vous le rangeriez dans quel camp alors ? Par rapport à cette histoire, parce qu'on le voit très bien dans votre film, hein, c'est... toute son ambiguïté.
Il y a eu un mot pour caractériser les gens comme Mitterrand, qui était les vichisto-résistants. Je crois qu'il en fait partie. Pour autant, il a été un très grand résistant, très courageux. Donc, c'est une réalité française. Ce que je veux montrer, pas à travers ce film, mais à travers d'autres travaux que je fais, et d'ailleurs que je fais actuellement, c'est qu'on est dans une période où domine la zone grise, où il y a des gens qui, un jour, peuvent être des bourreaux et le lendemain, des héros. C'est des choses qui sont très difficiles à comprendre en temps de paix et à comprendre dans notre époque actuelle, même si elle demeure une époque troublée. Mais enfin, c'est une réalité française de l'époque et je crois que ce trouble-là, cette confusion-là, François Mitterrand l'incarne d'une certaine manière, absolument.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement, votre film montre vraiment, donne à voir ces débats, alors sur les plateaux télé, au dossier de l'écran, à la radio, autour de, par exemple, fallait-il, sur le discours de Chirac, fallait-il, la France devait-elle s'excuser, devait-elle reconnaître sa responsabilité, vous donner la parole à ce moment-là à tous les acteurs de cette histoire, alors qu'il s'agisse de Michel Charasse d'un côté qui va dire bah non, pas du tout, il n'aurait jamais dû s'excuser, de l'autre...
Qui est le porte-parole de Mitterrand sur cette question-là.
Ouais, voilà, tout à fait. Et donc on voit bien que... Et puis de l'autre à Robert Badinter, je crois, à chaque fois, vous mettez en scène, en tout cas...
Oui, il y a Kirchmann, il y a Klarsfeld, il y a Lessénic aussi qui en parle.
Vous mettez en scène, vous faites, dans ce film, revivre le débat, en donnant chacun la parole. Et on voit, ce qui est très intéressant, on pourrait penser que tout ça, c'est de l'histoire, que ça y est, c'est complètement dépassionné, etc. Et en fait, pas du tout.
Non.
Les gens ont des positions encore très tranchées. On voit très bien, entre Klarsfeld aussi et Badinter, l'un traitant l'autre, à un moment donné, de courtisans, ça reste très à vif.
Oui, et j'ai longtemps cru qu'au fond, j'ai été contemporain de tout ça. J'ai vu ces débats devant moi, en direct, le coup de gueule, le coup de sang de Robert Badinter, les polémiques entre Kiechmann et Klarsfeld, qui sont d'ailleurs assez savoureusement rendues dans le film, avec la complicité des principaux acteurs qui commentent.
C'est ça.
Et c'est assez jouissif d'assister à ça. Et puis en même temps, moi, je ne prends pas position. Et puis à vrai dire, j'aime tout le monde. J'aime Kiechmann, j'aime Klarsfeld. Donc voilà, mais c'est des débats qui sont pas indignes. Et c'est ça, ce dont je me suis rendu compte en faisant ce film. C'est qu'en fait, oui, on se paye de mots d'une certaine manière. C'est la France, c'est pas la France. Qu'est-ce que l'État? Où est la responsabilité? Qui la porte?
Au moins, on débat, quoi. Au moins, ces questions-là sont débattues.
Oui, et puis, on est quand même un pays... on est quand même un pays articulé autour des mots. Et les mots ont leur importance, ils ont leur poids. Et effectivement, dire que Vichy, c'était la France, ça suscite... du débat, des postures parfois irréconciliables qu'on peut considérer de l'extérieur comme étant superfétatoires ou absurdes, mais je crois qu'elles ne le sont pas, et je crois qu'il y a une certaine dignité en fait de ce débat et de ces mots-là, et ces mots ne sont pas innocents. Et quand on voit quelqu'un comme Klarsfeld, dont on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un d'incohérent, c'est lui qui réclamait ce qu'a dit Jacques Chirac, c'est-à-dire que Vichy c'était la France, et pourtant aujourd'hui il nuance ce propos, il fallait que ce soit dit, mais en même temps, on peut aussi considérer que la France, elle était à Londres, que c'est pas tout à fait la même France, mais que, d'un autre côté, de toute façon, les Français ils restaient en France, et la France, à l'époque, c'était Vichy.
Tout à fait. Ce que vous montrez bien aussi, c'est comment, à un moment donné, va se faire ce que vous appelez le retour du refoulé. Donc il y a 68, bien sûr, le rôle du mouvement étudiant, c'est un sujet que vous connaissez bien aussi, je pense à votre livre sur Goldman, Frère de l'ombre, et puis il y a des films, et puis il y a Paxton dont on a parlé, mais c'est très intéressant, il y a un moment charnière quand même dans l'histoire de France où ça, le tabou commence à tomber, mais ça résiste encore. Ça occupe une bonne partie d'ailleurs de votre film. On n'est pas passé du refoulement à la reconnaissance comme ça, quoi.
Et vous soulevez quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant et qui est au cœur de ce film. C'est qu'au fond, le retour du refoulé, la vérité historique va venir par la bande. Elle va venir par des gens qui sont extérieurs à cela. Les étudiants de 68 en premier lieu, ils sont extérieurs à ça parce qu'ils sont nés après. C'est les les enfants du baby boom, mais beaucoup plus intéressant, c'est le rôle des œuvres, d'œuvres littéraires, d'œuvres de fiction. Et au fond, celui qui va venir fracasser la thèse officielle, c'est quelqu'un qui n'est même pas français, c'est Robert Paxton, c'est un historien américain qui n'a aucun rapport avec cette histoire-là, qui n'est pas juif, qui n'est pas français. Et il fallait vraiment, au fond, pour que la vérité percute à ce moment-là,
et
qui était très jeune et très beau à ce moment-là, pour que la vérité vienne percuter cette chape de plomb et de silence, il fallait attaquer la France, au fond, là où elle ne s'y attendait pas. C'est-à-dire par ses artistes, par ses romanciers, par ses cinéastes et par ses historiens qui ne faisaient pas partie du CERA universitaire français.
Donc parmi les cinéastes, notamment
Marcel Ophuls, bien sûr, avec Le Chagrin et la Pitié. Là, c'est le premier à mettre vraiment les pieds dans le plat, avec en plus une tonalité très ricanante, entre guillemets. C'est lui
un peu
qui 68 utilise ce mot. Totalement, oui. Mais 68 va donner la clé de sol, d'une certaine manière, des luttes à venir. Une lutte sous forme de provocation, de happening, toute chose dont Serge Klarsfeld va faire sienne d'une certaine manière lui aussi par le happening, par la provocation, par l'irrévérence à l'égard du pouvoir. Et ça, c'est la grande innovation de mai 68, je crois, dans la fabrication des nouveaux modes de contestation qui vont suivre la révolte étudiante de 68. Et toutes ces œuvres-là, toutes ces personnalités s'inscrivent au fond dans le précédent de mai 68.
Donc pour vous, il y a une matrice les Klarsfeld avec des modes d'action aussi assez non conventionnel, on va dire.
Tout à fait. Irrévérencieux sous le mode du happening.
Le comité Veldiv, pour vous, trouve leur origine dans cette
absolument.
Forme.
Absolument. Et d'ailleurs, Annette Wieworka le dit très bien dans le film, regardez la liste des signataires, vous n'avez que des anciens gauchistes, et pour beaucoup d'anciens 68ards. Alors pas tous, parce que même Serge Klarsfeld n'est pas tout à fait de cette même génération. Mais enfin, ça a imprimé quelque chose de fondamental dans la manière de contester le pouvoir.
Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Est-ce que cette mémoire, pour vous, elle est apaisée ? Est-ce qu'elle est toujours empoisonnée ?
Ce qui est empoisonné, c'est pas la mémoire.
De quoi l'affaire Zemmour est-elle le nom, on pourrait
dire ? Je pense que d'un point de vue mémoriel, c'est réglé. Il n'y a plus rien à dire, tout a été dit, écrit. Alors évidemment, on peut toujours faire de la micro-histoire, on peut toujours... l'histoire est inépuisable, mais enfin... qui peut douter aujourd'hui de cette réalité, de ce qu'était le régime de Vichy? Enfin, il n'y a qu'à voir les spots de propagande antisémite, anticommuniste. Enfin, on est vraiment dans une espèce de pâle copie, même revendicative. Enfin, dans le sens, il y a une espèce de surenchère dans la volonté de s'attribuer la paternité de l'antisémitisme, de concurrence avec les Allemands. Enfin, on est dans une espèce de cycle totalement fou, haineux, horrible, qui ne peut avoir d'autres conséquences que l'appel au meurtre. Donc c'est ça, Vichy. Et là-dessus, il n'y a aucun doute. Et puis, il n'y a qu'à voir les lois. Enfin, je veux dire, c'est un régime qui va légiférer, mais énormément. D'un point de vue social, on le sait un peu moins, mais du point de vue de la propagande, de l'antisémitisme, il faut lire le statut des Juifs. Enfin, il n'y a rien à sauver de ça. C'est impossible. Donc ça, c'est réglé, bien sûr. Ce qui n'est pas réglé, c'est la France. La France... elle est aujourd'hui un peu empoisonnée. Elle est habitée par un certain nombre de démons. Il y en a beaucoup aujourd'hui en France. Et ce qui reste de la mémoire de Vichy est un poison qui peut encore gagner la France. Et on le voit bien, il suffit que la France soit en crise, qu'elle aille mal. Et puis évidemment, c'est des logiques discursives, c'est des logiques antisémites qui ressurgissent et qui peuvent s'exprimer d'autant plus facilement qu'elles avancent à mots couverts, qu'elles ne s'expriment pas au nom de l'antisémitisme, mais au nom de l'honneur de la France. Donc c'est toute la perversité de ce discours qui, oui, dès que la France est en crise, dès qu'elle va mal, peuvent à tout moment ressurgir et s'exprimer à nouveau. Et c'est ce à quoi on assiste, à mon avis.
Est-ce que pour vous, l'antisémitisme actuel, bon, qui est plutôt, on va dire, d'origine musulmane, a un lien avec cette histoire ? Parce que je vous posais la question tout à l'heure, enfin, avec une histoire mal digérée, un passé qui ne passe pas, où on ne peut pas vraiment faire le lien.
C'est peut-être un... Moi, peu j'aime bien faire des
question,
liens.
Mais...
Déjà parce que ça nous interroge, parce qu'on essaye de se poser des vraies questions, des vrais problèmes. Le lien, il existe de manière fondamentalement indirect et il faut remonter très loin dans le temps pour le faire. Mais le lien, c'est le nazisme. Le nazisme a profité de certaines situations géographiques et historiques, a profité de la neutralité de deux grands pays musulmans pendant la guerre et même avant, que sont l'Égypte et l'Iran, pour faire un travail de propagande extrêmement intensif.
Vous connaissez bien dans le cas de l'Égypte, puisque vous
absolument,
avez également fait un
mais
film
de l'Iran
frères musulmans
aussi. Les deux histoires sont liées d'ailleurs, ce serait un peu trop long et ce serait certainement l'objet d'une autre émission. Mais enfin, ce sont des graines qui ont été très durablement implantées dans ces pays-là, via des radios, via des écoles techniques allemandes. N'oubliez pas que toute la première génération des frères musulmans, notamment en Égypte, est passée par ces écoles techniques allemandes, abreuvée jusqu'à plus soif de l'antisémitisme le plus dévastateur. Et voilà le lien. Aujourd'hui, dans ces pays-là, les gens ont oublié ça. Ils ne savent plus d'où ça vient, mais ça vient de là. Et ça vient bien plus de là que d'un fond, disons, anti-judaïque propre à l'islam, que je ne nie pas, qui existe aussi, mais qui n'a rien à voir. Les discours auxquels on assiste aujourd'hui au Moyen-Orient et dans le monde musulman d'une manière très large, c'est une récupération de motifs nazis au profit politiquement, idéologiquement d'un islam politique, mais ça vient fondamentalement du nazisme.
Merci Michael Prazan, on va s'arrêter là. Je rappelle le titre de votre film qui passera donc bientôt sur France 3 le 25 avril, Vichy, la mémoire empoisonnée.
Merci à vous.
C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, mémoire vive au pluriel.net. À dimanche prochain.